Jupiter pour des raisons évidentes, mais qui a été observé pour la première fois par Galilée dans l'hiver 1609-1610, quand il a braqué sa lunette, la première fois qu'un humain braquait un instrument astronomique vers le ciel, quand il a braqué sa lunette notamment vers Jupiter, et qu'il y a vu les satellites de Jupiter, qui s'appelaient à l'époque, il a appelé les astres médicéens. C'était Médicis qui finançait Galilée, alors forcément, il faut se rappeler qui paye, hein, quand vous donnez les autres, il ne faut pas déconner avec ça. Donc Médicéens en l'honneur de Médicis, et puis maintenant on les appelle les satellites galiléens de Jupiter. On en voit un ici, celui qui était présent là, c'est Io, un satellite dont on va reparler tout à l'heure, le satellite Io, et l'ombre du satellite Io, la tache rouge qui est présente, Jupiter l'a vu, Galilée l'a vu, pas rouge, mais il a vu qu'il y avait cette structure sombre sur Jupiter qui se déplaçait et donc qui montrait la rotation de Jupiter. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on a pu avoir une idée de la rotation sur elle-même de Jupiter en voyant le mouvement de cette tache rouge et de son retour à peu près une dizaine d'heures, la durée de rotation de Jupiter sur elle-même. Vous voyez, ils ne sont pas cassés la tête. Je ne jette pas la pierre à Cameron, il a fait des belles images par ailleurs, mais vous voyez, il s'est inspiré clairement de Jupiter. Donc on a cette tache rouge qui est ici, enfin bleue maintenant. Qu'est-ce que c'est que ça? Quand on voit une image comme ça, voilà, c'est se poser des questions. Cette enquête, c'est ça, c'est se poser des questions. Qu'est-ce que c'est que cette chose-là? C'est le vaisseau, ça pourrait être un satellite, c'est le vaisseau interstellaire des humains qui arrive sur Pandora. D'accord, on le regarde de près, on va le voir tout à l'heure en mieux. C'est le vaisseau des humains. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un autre satellite. D'accord, alors lui, il n'a pas. Lui, on est très proche en distance de Pandora, donc on la voit, sa taille apparente est importante. Ce satellite-là est plus lointain de nous, il a une taille apparente plus petite. Ce jeune homme, je le vois avec une bonne taille apparente. Les messieurs qui sont au fond là-bas, je les vois avec une taille apparente plus petite, alors qu'ils ont probablement des tailles voisines, celle d'un humain de base mâle qui doit faire environ 1m75. Et ben voilà, ils sont plus loin, donc je les vois plus petits. La taille apparente, l'angle sous lequel je vois la personne ou l'objet, plus il est loin, plus je le vois sous une taille petite. Donc lui, il est plus petit parce qu'il est essentiellement plus loin. Peut-être que le satellite est effectivement physiquement plus petit, c'est-à-dire que peut-être qu'il lui fait... On va déterminer ça. Enfin, je vous parlais de sa taille tout à l'heure. Lui, il fait 4000 km ou 5000 km de diamètre. Peut-être que lui ne fait que 1000 km ou peut-être qu'il en fait 8000. C'est pas facile à dire si on ne les a pas à la même distance. C'est un autre satellite. Où est la source de lumière qui éclaire la scène? La source de lumière qui va être l'étoile. Alors, elle est où? À gauche, c'est-à-dire par là? Ah ben, à droite, alors. Ah, voilà, je vous emmerde, évidemment. Alors, je fais cette remarque-là pour vous dire que quand on dit une phrase en physique, c'est pas facile. Parce qu'on le dit dans un référentiel, qui est le vôtre. Vous êtes assis comme ça. Donc, pour vous, évidemment, ça a l'air d'être plutôt à gauche. Moi, je suis assis comme ça, et c'est plutôt à droite. Enfin, il faut que je regarde derrière, mais c'est plutôt à droite. D'accord? Donc, c'est important en physique de savoir dans quel référentiel on parle, parce que beaucoup de choses dépendent du référentiel dans lequel on parle. Par exemple, la mesure des durées. Je ne vais pas épiloguer là-dessus, mais depuis la théorie de la relativité d'Einstein, la durée, par exemple, la durée de cette conférence, elle va être environ une heure pour tout le monde. Si quelqu'un passait près de nous à très grande vitesse par rapport à nous, très grande vitesse, ça ne veut pas dire la vitesse d'un Formule 1 ou d'une voiture. D'une voiture de Formule 1 ou d'un avion. À des vitesses qui sont de l'ordre d'une fraction de la vitesse de la lumière. Par exemple, 100 000 km par seconde, il mesurerait dans son référentiel à lui, en mouvement rapide par rapport à nous, une durée différente de celle que nous allons mesurer ici, en étant à peu près fixes les uns par rapport aux autres. Donc c'est très important de préciser le référentiel dans lequel on est, pour l'orientation, mais pour plein d'autres choses en physique. D'accord? Donc c'est pas à gauche, c'est... Alors comment on peut dire pour que je comprenne et que ça soit indépendant du référentiel? C'est la difficulté en physique. Dire des choses qui sont compréhensibles par n'importe quel observateur et qui puisse comprendre quel que soit son état de mouvement, quelle que soit sa position, etc. C'est ça une des difficultés de la physique, c'est ça. Alors la phrase, je vous la donne. Quand je fais ce petit exercice-là d'enquête scientifique, c'est vraiment ça qu'on fait. Hein. Dire où est la source. Vous avez pigé l'idée, vous êtes des malins. Mais je fais ça avec des élèves de collège, par exemple des élèves de 6e. Ça prend une demi-heure pour trouver la phrase. Une phrase plausible. Parce qu'ils me parlent, ils me disent comme vous, ils me disent à gauche. Moi, je leur dis, ah bon? À droite? À gauche? Après, ils me disent quoi? Ils me disent par là. Alors après, on se met tous d'accord sur un référent. Ils disent, ouais, par là. Oui, mais par là, si je ne vois pas l'écran, je fais comment? Comment je comprends? Alors la phrase qu'on pourrait dire, c'est, vous voyez, c'est d'abord cette, là, il fait jour, là, il fait nuit. L'endroit de séparation entre le jour et la nuit, on appelle ça, en astronomie, le terminateur. Sur la Lune, quand vous regardez la Lune, la zone qui sépare la zone brillante de la zone sombre, il y a une espèce de ligne qui n'est pas une ligne nette. Hein, parce qu'il y a la partie pénombre, il y a la partie qu'on appelle sur Terre crépuscule, ou aube, si c'est le lever, ça s'appelle le terminateur. Ça fait une ligne, le terminateur, c'est en gros une ligne droite. Eh bien, vous prenez la perpendiculaire au terminateur et vous trouvez la source dans la direction, le long de cette perpendiculaire, dans la direction opposée à l'ombre. Avec ça, vous pouvez faire le dessin sans avoir vu cette image-là. Vous dessinez un rond, faites le terminateur, la perpendiculaire, un côté il y a l'ombre, de l'autre côté. D'accord ? L'ombre est là, à l'opposé de l'ombre. D'accord ? Bon, ça marche bien. Si on regarde maintenant le petit satellite qui est ici, on voit qu'il y a un terminateur aussi. La perpendiculaire, ça donne en gros la même direction. Donc ces deux objets-là nous donnent la même réponse. Donc il y en a un qui donne une réponse, l'autre donne la même réponse. On a confiance dans notre réponse. On se dit que la source, elle est vraiment quelque part par là, on va dire en haut à gauche, mais dans votre référentiel. D'accord ? Et ça, c'est quoi alors du coup ? L'ombre. Alors l'ombre, ça veut dire... C'est pas pareil. Alors je fais une petite remarque de français. Dire une ombre et dire l'ombre, c'est pas la même chose. Parce que quand tu dis une ombre, tu dis bon, c'est une ombre. Mais quand on dit l'ombre, c'est de quoi ? On a envie de dire et de quoi ? L'ombre de lui. Bon, alors est-ce que ça peut être l'ombre de lui ? Prends position, tout à fait acceptable. Quand je pose une question, il n'y a jamais de mauvaise réponse. D'accord ? Il y a juste des réponses et on en discute. C'est ça la science. Il y a des réponses, on essaie d'avoir des réponses et on discute des réponses, on choisit celle qui paraît la plus pertinente. C'est une affaire de consensus aussi la science. Dans cette enquête que mènent les scientifiques pour le monde, sur le monde réel, cette enquête scientifique s'appelle de la recherche fondamentale, eh bien, il y a consensus qui se fait sur les réponses qu'on apporte à certaines questions. Alors ce jeune homme nous dit... L'ombre du satellite, est-ce que c'est raisonnable ? Est-ce qu'on peut trouver un argument pour ou un argument contre ? Contre. Voilà, je poursuis votre raisonnement pour tout le monde entendre. Si l'on fait la ligne qui joint l'ombre et ce qui est supposé être l'objet qui s'interpose, on devrait aboutir à la source de lumière. Et si l'on fait ça, on arrive plutôt en bas à gauche. Alors que tout à l'heure, on avait dit en haut à gauche. Ça ne marche pas. Si on se dit... La source est en haut à gauche, alors l'ombre, elle est de quelque chose qui est sur la ligne qui joint l'ombre et la source, et qu'on ne voit pas dans l'image. Il y a donc quelque chose en dehors de l'image qui fait une ombre. Ça, en physique, c'est tout le temps comme ça. Enfin, c'est tout le temps, ça arrive. Des choses qu'on ne voit pas et qui ont des effets. Prenez par exemple la matière noire. Vous avez entendu parler de la matière noire. En astronomie, en cosmologie, il y a cette entité qu'on appelle matière noire qui semble modifier la dynamique des galaxies et qui ne brille pas. Autrement dit, on ne la voit pas sous sa forme lumineuse. On ne la voit d'ailleurs sous aucune autre forme que sa supposée action gravitationnelle sur la dynamique d'une galaxie et sur la dynamique des galaxies dans un amas de galaxies. On ne voit pas la matière noire. On suppose qu'elle est là parce qu'il y a des effets indirects. D'accord ? Donc là, encore une fois, comme on dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Si vous voyez de la fumée, vous dites qu'il y a un feu quelque part, même si vous ne le voyez pas. Mais c'est une supposition. Il y a peut-être un gars qui a... une machine à fumer qui vous fait de la fumée. D'accord ? Et ce n'est pas un feu. D'accord ? Donc là, c'est pareil, on va supposer, on n'a pas la preuve, donc on n'a pas. Si on ne peut pas tourner la caméra pour voir s'il n'y a pas un satellite encore qui s'interpose, on n'a pas la preuve qu'il y a un autre objet et que notre hypothèse est la bonne. C'est l'hypothèse la plus raisonnable. Oui ? Alors, un deuxième soleil, il y a effectivement dans Alpha du Centaure, il y a un deuxième soleil. Alors à ce moment-là, on doit avoir deux terminateurs ici. Il devrait y avoir, d'une façon ou d'une autre, s'ils éclairaient la scène aussi. Fortement pour qu'il y ait une ombre nette, belle ombre comme ça, il devrait y avoir des terminateurs modifiés. Donc il y a un deuxième soleil qui est quelque part, mais qui ne porte pas ombre, enfin qui n'est. Bon. Quoi qu'ils aient fait, son action n'est pas. Il peut être, par exemple, situé de l'autre côté de Polyphème au moment où l'image est prise et on ne le voit pas pour l'instant. Mais effectivement, ça pourrait être une deuxième source, mais qui aurait des conséquences sur les autres objets aussi. Donc il y a une situation de cohérence. Vous voyez qu'on n'est pas. On est obligé de construire quelque chose, une représentation de ce système-là, à partir de cette image, qui doit être cohérente entre ce que l'on voit et ce que l'on sait de la physique de la lumière et des ombres. Il y a une source de lumière, un objet qui s'interpose, une ombre qui est créée à l'opposé de l'objet, de la source par rapport à l'objet. D'accord ? Donc des choses qui sont pour vous élémentaires. J'ai fait ça avec un peu de détail pour montrer à quel, même sur des images simples, et avec des notions simples de physique ou de science, ou de mathématiques, en fait c'est de géométrie, on peut commencer à faire des choses raffinées, si j'ose dire, des questions raffinées, des questions où ça nécessite de faire tourner son cerveau pour aboutir à une réponse qui soit compréhensible, une réponse qui soit indépendante de l'observateur, que tout observateur peut comprendre, une réponse qui soit cohérente avec ce que l'on voit. Et c'est ça que fait la recherche fondamentale. Alors maintenant, une fois que j'ai fait ces préliminaires, je ne vais pas vous embêter à chaque fois avec ces discours-là. Maintenant, on va rentrer dans le gros, où on va se payer tout ce qu'on peut dire sur Avatar. Voilà, par exemple, sur Pandora. Là, on est dans une scène, on est en caméra subjective, si vous vous rappelez le film, on est assis sur un de ces espèces de chevaux à six pattes. Et on est un Na'vi, en fait. Les Na'vi sont les extraterrestres de Pandora, les indigènes. On court sur ces chevaux, on en voit d'ailleurs des indigènes qui sont là. On court sur la plaine. Et on voit Polyphème dans le ciel, on voit des choses volantes qui sont les banshees, qui ne sont pas des oiseaux. Évidemment, on voit d'autres satellites, on voit ces grands arbres, il fait nuit, on court là-dedans, on voit polyphème magnifique posé sur l'horizon. La question que je pose, elle est écrite en haut. Alors quand je dis quelle est l'orbite, on va la supposer circulaire. Quelle est la distance entre Polyphème et Pandora? Vous ne pouvez pas y répondre en 2 minutes. Je vous rassure, n'essayez pas de réfléchir. Vous ne pouvez pas y répondre en 2 minutes. Mais on peut y répondre. On peut y répondre avec cette image, avec une information dont on dispose, qui est donnée dans le film, pour le coup. Je la rappelle, Polyphème à la taille de Saturne. Autrement dit, on connaît le rayon réel de Polyphème. On sait que ce rayon-là, ça fait à peu près 57 000 km. Le rayon typique de le rayon moyen. Saturne est un rayon équatorial qui n'est pas le même que son rayon polaire parce qu'elle est en rotation et ça fait un aplatissement au pôle de Saturne, comme la Terre d'ailleurs elle-même est aplatie, légèrement aplatie au pôle à cause de sa rotation sur elle-même. Donc je connais le rayon de Saturne. Qu'est-ce qui me manque pour déterminer sa distance? Il me manque la connaissance de sa taille apparente, de l'angle sous lequel je vois Polyphème. Si je réussis à mesurer sous quel angle je vois Polyphème, depuis ma position sur Pandora, pas depuis votre position dans votre chaise, évidemment. Depuis ma position sur Pandora, si je connais cet angle, alors j'aurai la distance. Sachant que l'angle apparent, pour un objet donné, si vous prenez un bâton d'un mètre, eh bien il va vous apparaître, s'il est très près de vous, il va apparaître assez grand, donc sous un angle assez important. Mais s'il est là-bas à 10 mètres, il sera sous un angle plus petit. Et puis s'il est là-bas à 100 mètres, encore plus petit, etc. Et d'autant plus loin, d'autant plus petit. Donc si vous connaissez de 3 choses qui sont a priori liées entre elles, la taille réelle du bâton, la distance du bâton, l'angle sous lequel vous voyez le bâton, de ces 3 choses-là, vous en connaissez 2, vous déterminez la 3e. Là, j'en connais 1, la taille réelle. Je vais essayer d'en déterminer 2e, qui est la taille apparente de Polyphème. Et si je connais la taille apparente de Polyphème, alors j'aurai la distance qui sépare Pandora de Polyphème, et donc le rayon de l'orbite, une idée du rayon de l'orbite supposée circulaire de Pandora autour de Polyphème. Alors, je vais vous épargner tout le raisonnement, mais essentiellement pour faire ça, il faut comparer la taille apparente de Polyphème avec la taille apparente d'un des arbres qui sont là. Alors, pas celui-là, il n'y en a qu'un bout. Cet arbre-là, on pourrait. Cet arbre-là, il est mieux. Quand je dis la taille apparente d'un arbre, ça veut dire, si moi, je sais que cet objet là-bas fait 1 degré de taille apparente et que je vois ce monsieur technicien au fond et qui fait 2 fois il lève la main et avec la main levée, il fait 2 fois la taille apparente. J'en déduis que sa taille apparente est de 2 degrés. J'ai juste fait une règle de 3. Ils ont l'air d'avoir des tailles apparentes, l'une double de l'autre. Et j'en déduis la taille apparente du deuxième à partir de celle du premier. Donc si je connaissais la taille apparente de l'arbre qui est ici, je peux mesurer, je ne sais pas si c'est là. Ah non, ce n'est pas là. Je vais le montrer. Mesurant en nombre de pixels, combien j'ai de pixels ici, combien de pixels ici, je fais une règle de 3. Il y a, mettons, 20 fois plus de pixels ici que là. Si ça, ça fait 1 degré, ici, ça fera 20 degrés. Voilà comment je fais mon raisonnement. Après, c'est comment je trouve qu'ici, ça fait 1 degré. J'ai remplacé la question par une autre question. Je vais y venir. Je pourrais faire aussi une estimation au doigt mouillé. Ça veut dire ça fait combien de degrés? Alors, si on votait, il y aurait toutes les réponses possibles. Il n'y aurait pas de réponse, il y aurait j'en sais rien. Et il y aurait toutes les réponses possibles entre, je ne sais pas combien, 10 degrés, 30 degrés, 5 degrés, tout ce qu'on veut. Est-ce que vous connaissez la taille apparente de la Lune, par exemple? La pleine Lune dans le ciel. Un demi-degré, 0,5 degré. C'est la taille apparente de la pleine Lune dans le ciel. Le Soleil, taille apparente du Soleil dans le ciel, à peu près pareil d'ailleurs. C'est pour ça que quand la Lune passe devant le Soleil, ça fait une éclipse totale. La taille apparente de la Lune est presque exactement égale à celle du Soleil. Un demi-degré, ça a l'air beaucoup plus gros que la Lune. Quand on voit la Lune dans le ciel, c'est un petit machin. Là, on voit. Est-ce qu'on a déjà vu la Lune comme un espèce de truc pas possible comme ça? Alors en fait, je ne vais pas dire oui, mais presque, c'est quand la Lune se couche, vous avez dû voir quand la Lune se couche, on la voit plus volontiers quand elle se couche ou quand elle se lève, on peut la voir très grosse. Voilà une photographie qui a été prise par un astronome de l'Observatoire européen austral, du VLT, du Very Large Télescope au Chili. Voilà la Lune qui se lève derrière les 4 coupoles, 1, 2, 3, 4, les 4 coupoles des télescopes de 8,20 m qui ont été montés donc au Chili par les Européens. La question, c'est quelle est la taille apparente de la Lune? Comme on veut déterminer tout à l'heure la taille apparente de Polyphème. Comment je vais faire ça? C'est simple. Je vais comparer le cercle de la Lune à la hauteur d'une coupole. Et je vais déterminer la taille apparente d'une coupole pour en déduire la taille apparente de la Lune. Comment je connais la taille apparente d'une coupole? C'est très simple. Le monsieur qui a fait la photo m'a dit à moi, mais il l'a même publié sur son site où il met ses images, il a donné la position où il était quand il a fait sa photographie. Et maintenant, avec Internet, GPS, tout ce qu'on veut, on peut déterminer la distance qui le sépare des coupoles. D'autre part, le VLT donne la hauteur des coupoles. Donc, je connais la hauteur de la coupole, je connais la distance. J'en déduis l'angle sous lequel je vois la coupole. Et comme ici, sur mon petit dessin, il y a ce petit bâton-là, il va 2,5 fois à peu près là-dedans. J'en déduis la taille apparente de la Lune. Tout calcul fait. Les coupoles font 29 mètres. Elles sont vues à 13,6 km. J'en déduis la taille apparente d'une coupole. Je multiplie par le bon facteur, 2,5 à peu près, et j'obtiens la taille apparente de la Lune, 0,5 degré, qui est la bonne réponse. Donc voilà comment on va faire, comment je ne vais pas faire, mais j'ai fait pour Polyphème, avec l'arbre. L'arbre, vous allez voir, il y a une subtilité. Parce que pour l'arbre, comme pour la coupole, il faut que je connaisse la taille de l'arbre en mètres, sa hauteur réelle et sa distance, qui évidemment ne sont pas données dans le film non plus. Donc au lieu de les pomper sur le site du gars pour la distance et sur le site du VLT pour la hauteur, il faut mouliner encore. Donc ça rajoute des questions aux questions. Vous voyez, c'est ça la science. Vous posez une question, puis merde, il y en a deux, puis quatre, puis huit, puis beaucoup de questions. Puis à la fin, quand vous avez essentiellement répondu à plein de questions, la première question, celle du début, celle qui vous intéressait, bon, ça y est, vous avez, c'est bon, on a la réponse, mais il a fallu bosser. C'est la science, c'est ça aussi. La physique, la biologie, la chimie, c'est ça aussi. Donc, la taille apparente de la Lune, c'est important de la mesurer plutôt que de l'estimer. Parce que regardez, près de l'horizon, vous avez encore une fois peut-être eu cette impression de voir la Lune comme un gros objet, plus gros qu'il n'est quand elle est dans le ciel. Vous avez peut-être eu déjà cette impression. Est-ce que je me trompe ou pas? Peut-être que vous n'avez jamais vu la Lune, c'est mal. Regardez la Lune. Bon. Peut-être que vous n'avez jamais vu cet effet-là. Bon, vous n'êtes pas là aux bonnes heures. Vous êtes en train de manger quand la Lune se couche, en train de dormir quand la Lune se lève. Bon, enfin bref, c'est pas grave. Mais essayez de le vérifier si vous pouvez. Quand la Lune est près de l'horizon, vous la verrez. Vous aurez l'impression qu'elle est beaucoup plus grosse que quand elle est plus haut dans le ciel. Ça, c'est une illusion. C'est une illusion. C'est pour ça que j'insiste sur le fait qu'on fait une mesure, je vais revenir à cette illusion, qu'on fait une mesure en physique, parce que nos sens nous trompent. On parlait de référentiel tout à l'heure. Si on se fonde sur notre impression sensitive humaine, on peut avoir des soucis parfois, et même des gros soucis. Par exemple, il est évident que le soleil tourne autour de la Terre. Non ? Mais qu'à regarder, le soleil se lève, se couche, se lève, se couche, et il tourne autour de moi, c'est évident. Alors que la réalité, je le rappelle pour ceux qui ne le sauraient pas ou qui l'ignoreraient, c'est que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil. Mais on a l'illusion de l'inverse, nous qui sommes sur Terre. D'accord ? Donc nos sens, d'une certaine façon, nous trompent, nous abusent, et il faut dépasser ces apparences, et ces apparences sont dépassées par des mesures quantitatives, par une procédure qui s'appelle la mesure, l'expérience, la procédure scientifique, expérimentale, qui fait qu'on est capable de faire des expériences et de les reproduire ailleurs. Quelqu'un d'autre peut refaire l'expérience ailleurs et va trouver, comme moi, la même taille apparente de la Lune. D'accord ? Donc ça, c'est un point important sur le fonctionnement de la science. Alors, pourquoi il faut se méfier de nos sens ? Regardez cette image. Non, c'est pas ça. Oui, donc du coup, le rayon de la Lune, bon. Quel est le plus grand bâton rouge ? Si vous ne répondez pas droit, soit vous mentez, soit il faut aller voir quelqu'un qui va régler vos problèmes de vue ou de cerveau. Parce que c'est votre cerveau qui vous abuse, en fait. D'accord ? Normalement, vous devriez voir ce bâton-là plus grand que celui-là. Et maintenant, il faut me faire confiance. J'enlève l'image du fond. Je ne fais que enlever l'image du fond. Je tripote pas les bâtons. Maintenant, lequel est le plus grand ? Mais c'est les mêmes. D'accord ? Et quand je remets, c'est pas les mêmes. Et vous ne pouvez pas vous défaire de cette impression. On a beau dire, c'est impossible. C'est votre cerveau qui vous abuse. Votre cerveau, il n'est pas très malin. Parce que lui, il attribue automatiquement des tailles apparentes plus grandes. C'est automatique, vous ne pouvez pas vous défaire de cette impression-là. Des tailles apparentes plus grandes aux objets qu'il pense être plus lointains. Quand je dis qu'il pense, c'est-à-dire que vous pensez être plus lointain. Et pourquoi vous pensez que ce bâton-là est plus lointain que celui-là ? À cause de ces lignes de fuite ici qui donnent l'illusion d'une profondeur, d'une perspective fuyante à l'intérieur de l'écran. Bien sûr, vous savez bien que c'est plat et tout. Vous, votre cerveau, votre réflexion rationnelle vous dit ben, bien sûr, c'est plat. Mais oui, mais l'autre, il dit non, j'ai rien à foutre. Moi, j'ai l'impression que ça rentre dans l'écran. J'ai l'impression que c'est loin, donc c'est plus grand. Et puis, c'est tout. Et vous ne pouvez rien faire contre ça. Vous ne pouvez pas vous dire mais non, c'est... non, ça ne marche pas. Vous regardez, c'est plus grand. D'accord ? Donc, nos sens nous abusent. Des illusions d'optique comme ça, il y en a pléthore qui sont stupéfiantes. Celle-ci, ça s'appelle l'illusion de Ponzo. Donc, ne déterminons pas la taille apparente d'un objet comme Polyphème, comme la Lune ou comme tout autre objet, ne la déterminons pas au doigt mouillé, d'accord ? Avec nos sens qui peuvent nous tromper et nous donner une réponse qui n'est pas la bonne réponse. Voilà, alors je reviens sur Pandora. La réponse est 24 degrés. Alors je passe les détails, parce que sinon je pense que je vais dépasser sensiblement mon temps de parole, mais on peut déterminer la taille apparente de cet arbre, on peut faire un raisonnement sur comment je détermine la taille réelle de cet arbre en comparant aux arbres, aux plus grands arbres terrestres, qui sont les séquoias, qui font 100 mètres de hauteur, et en utilisant une relation qu'il y a entre le diamètre des troncs à la base de l'arbre et la hauteur des arbres. Sur les arbres terrestres, le diamètre d'un tronc est d'autant plus grand que l'arbre est haut. Ça paraît assez logique. Mais quand l'arbre est deux fois plus haut, le diamètre n'est pas deux fois plus grand. D'accord ? Quand l'arbre est deux fois plus haut, le diamètre, il est plus que deux fois plus grand. D'accord ? Il y a une relation entre hauteur et diamètre de l'arbre. Et on peut mesurer le diamètre des arbres dans le film en les comparant aux hélicoptères. Mais là, il y a les hélicoptères des méchants humains qui viennent tuer un arbre, qui viennent dégommer un arbre. L'hélicoptère, ça fait 10 mètres de long, 10 mètres de, à peu près une dizaine de mètres de long. On compare à l'arbre et on trouve que l'arbre doit faire 80 mètres de diamètre. Les séquoias font 10 mètres de diamètre. Et par cette petite règle, on peut déduire que la hauteur probable des arbres de Pandora, c'est de l'ordre de 400 mètres. Et la distance maintenant, je dis une hauteur probable fondée sur un raisonnement, mais avec une estimation du diamètre qui est ce qu'elle est, qui est discutable. On pourrait discuter, c'est peut-être 82 mètres. Bon, d'accord, mais c'est en ordre de grandeur, on appelle ça en physique un ordre de grandeur. Et puis la distance de l'arbre, je la détermine comment ? Et pourquoi je prends cet arbre qui est ici plutôt que celui-là ? C'est que celui-là, le pied est ici, je ne connais pas sa distance. Celui-ci, le pied est à l'horizon ou pas loin de l'horizon. Et la distance de l'horizon, ça se calcule. Ça dépend de deux choses, la distance de l'horizon. De la hauteur des yeux de celui qui regarde. Plus vous avez les yeux hauts, plus votre horizon sera lointain. C'est pour ça qu'on monte au sommet des mâts pour voir les pirates qui vous attaquent ou qui veulent vous attaquer, plutôt qu'en restant au niveau du pont du navire. C'est pour ça que les enfants, ils ont un horizon près de la mer plus ras du sol que les adultes. Et c'est pour ça que quand vous êtes allongé sur votre serviette, l'horizon, c'est rien. Enfin, c'est tout de suite là. Parce que vos yeux sont à des hauteurs différentes. Donc ça dépend de la hauteur des yeux. Il faut estimer la hauteur des yeux du navire sur son cheval à six pattes. Facile. Vous regardez ce que c'est un cavalier humain sur un cheval humain. Cavalier humain, il fait 1m60. Les navires font 3 mètres. Ben, vous essayez de vous dire, on va essayer de faire une règle pour trouver la hauteur des yeux, sachant d'un navire, 3 mètres de haut sur un cheval adapté à sa taille, comparé à 1m60 sur un cheval adapté à un humain. Et on trouve que la hauteur des yeux, c'est peut-être 5 mètres au-dessus du sol. Et puis deuxièmement, il faut connaître la distance de l'horizon. Pour avoir la distance de l'horizon, il faut connaître à quelle vitesse, entre guillemets, comment l'horizon vous fuit. C'est parce que la planète, le satellite plutôt, Pandora, est sphérique. Il faut connaître donc ce qu'on appelle son rayon de courbure, son rayon tout simplement. C'est une sphère, son rayon. Comment je connais le rayon de Pandora ? Je passe encore le raisonnement. On peut déterminer le rayon de Pandora uniquement avec ce qu'on voit dans le film. Et le rayon, et notamment, il y a le colonel Quaritch. Vous voyez qui c'est ? C'est le méchant à gros bras. Au début du film, il s'entraide, il fait des poids. Il fait des poids pourquoi ? Pour avoir des gros biscottos. Mais il nous dit, le manque de pesanteur, ça affaiblit. Donc ça laisse sous-entendre que la pesanteur de Pandora est plus faible que celle de la Terre. Celle de la Terre, c'est donc une gravité terrestre, 9,8 mètres par seconde au carré. Donc Pandora plus petit que ça, peut-être 3/4 de gravité terrestre. On peut raffiner ce nombre-là en regardant ce qui se passe. Je passe les détails. Une fois qu'on a le rayon, à peu près 4800 km, la hauteur des yeux, on a la distance de l'horizon, une quinzaine de kilomètres. Vous avez donc 400 mètres à 15 km. Vous avez donc à peu près 1 degré de taille apparente pour l'arbre. Vous avez 20 fois, 22 fois ici, ce qui a le rayon ici, les 22 fois la hauteur là. Donc vous avez à peu près 24 degrés pour la taille de Polyphème. Vous avez 57 000 km. Avec les 24 degrés, vous trouvez 400 000, 360 000 km de distance. Là, c'est le raisonnement vite fait. Je vous ai un peu submergé. Je vois que vous avez les yeux là. Vous dites, il est dingue. Qu'est-ce qu'on fout ici, les 10 heures ? C'est les utopiales. Je pensais qu'on allait parler de SF, que ça allait être cool. Ils nous abreuvent de nombres de folie. Eh ouais, je suis un peu désolé. La science, c'est aussi des nombres. Et à un moment donné, il faut faire ça. C'est pas que des théories. On met des nombres dedans parce que quand on construit des ponts, s'il n'y a pas assez de béton ou trop de béton, ça coûte cher pour le gars qui fait les ponts. S'il n'y a pas assez de béton, vous ne montez pas sur le pont, quoi. Enfin, peut-être ça va tomber. Donc, à un moment donné, il faut mettre des nombres dans la science, hein, parce que ça, les choses ont un coût. Et puis, il faut que ça tienne, il faut que ça marche, il faut que ça fonctionne. Donc là, je peux vous montrer qu'on peut faire ce raisonnement pour trouver des informations qui ne sont pas données dans le film et qu'on peut utiliser la science pour ça. Et que la science est un merveilleux outil d'investigation sur notre monde. Alors le rayon, la réponse, bon, je passe. Alors on va passer maintenant sur plus marrant, un peu de biologie, sur les banshees. Les banshees sont ces êtres qui sont là. Un Navi, alors là c'est pas un vrai Navi, hein, c'est comment s'appelle Sully dans son avatar. À quoi on voit que c'est Sully dans son avatar ? Alors c'est pas évident sur l'image, parce qu'il a 5 doigts. Je vous rappelle que les Navis ont 4 doigts comme Mickey. D'accord, les Navis, 4 doigts. Vous avez regardé, vous savez, si je vais poser la question combien de doigts les Navis, vous savez pas répondre ? Mais moi je sais répondre. Parce que j'ai regardé le film. Vous n'avez pas regardé le film. Vous dites, ah, c'est vachement beau, c'est cool. Vous voyez, c'est ça, regarder le film. Si je vous pose une question, genre, combien de doigts les Navis ? Il faut pouvoir répondre. 4 doigts. D'accord ? Et les avatars humains, donc les Navis, les faux Navis que pilotent les humains quand ils sont dans leur caisson, ils ont 5 doigts. C'est comme ça qu'on les distingue. Sinon, ils sont pareils. Ah voilà, moi, je les repère comme ça. Bon, sinon, on sait qu'ils parlent, évidemment, mais bon, c'est un autre problème. Pour que le spectateur puisse suivre. Mais s'il n'y avait pas le son, moi, je sais lesquels, c'est lesquels. Alors, donc lui, c'est Sully, tout déplié, fait 3 mètres de long. Alors, à votre avis, exercice d'ordre de grandeur, à vous, c'est quoi le diamètre, pas le diamètre, l'envergure des Banshees? Vous diriez combien? Combien? 6 mètres? Ça vous va, 6 mètres? Vous diriez combien, alors? 9? Voilà. 15? Alors, si on faisait une petite... Ça serait intéressant de faire une petite statistique parmi tout le monde. On verrait que tout le monde n'a pas la même réponse. Eh bien, en science, c'est ça aussi. Hein, tout le monde n'a pas la même réponse. Il faut s'arranger sur une réponse. Regardez le GIEC qui a publié récemment son rapport. Les gens, là, ils ont bossé pendant 2 ans pour se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'on allait raconter, et c'était quoi, les prévisions, comment on se mettait d'accord là-dessus. Parce que tout le monde ne dit pas la même chose, exactement la même chose. Ils sont d'accord sur certaines tendances, mais tout le monde ne dit pas la même chose. Il faut se mettre d'accord et ça prend du temps. Donc là, on va prendre, disons, en ordre de grandeur, encore une fois, on va prendre 10 mètres. D'accord, 6 mètres, c'est un peu court. 9 mètres, 15 mètres, ça a l'air un peu grand. Disons que les bornes, ça va être, mettons, entre 6 et 15. On va prendre une dizaine de mètres d'envergure. Et il y a lui là qui fait 3 mètres, une dizaine de mètres d'envergure. Bon, est-ce qu'il y a des animaux aussi grands comme ce que ça sur Terre volant? Non, il n'y en a plus de comme ça. Il y en a eu. Hein. Regardez les... Ça marche? Non, ça marche plus. Alors pourquoi ça marche plus? Bon, j'ai appuyé sur le bouton alors. La baguette magique marche plus. Voilà. Les plus grands volants terrestres actuellement, ce sont ces deux-là. Le grand albatros et le condor, qui font 3 mètres d'envergure, ce qui est déjà pas mal. Hein. Si vous avez déjà vu des condors, par exemple, on peut les voir, les albatros. Enfin, les albatros, si on peut en voir aussi, mais les condors, moi, je me rappelle en avoir vu dans des spectacles de rapaces, où on voit les condors. Quand c'est un machin de 3 mètres de volant qui vous passe au-dessus de la tête comme ça, c'est pas comme quand c'est un moineau, évidemment, ou quand c'est un pigeon. Hein. C'est pas la même impression. Alors, 10 mètres, c'est beaucoup. Et vous voyez que là, on a l'ombre, on a un être vivant qui n'existe plus, un être qui n'existe plus, qui est ce nom-là, qui est en fait de la catégorie des ptérosaures, et qui faisait 10 mètres d'envergure. L'estimation, 10 mètres d'envergure à partir de squelettes qu'on a trouvés. Hein. Donc, je vais vous montrer un squelette. On a trouvé des êtres donc, qui faisaient 10 mètres d'envergure, et qui ont volé sur Terre, enfin dans l'air de la Terre. Des ptérosaures qui ne sont pas les dinosaures. C'est parce que ça finit par zor. Hein. C'est qui les descendants des... Les ptérosaures, ça n'existe plus. Il n'y a plus de descendants actuels des ptérosaures. Et les descendants des dinosaures actuels, c'est quoi? Hein? Les oiseaux. Les poulets, par exemple. Non, pas les reptiles, justement. Les poulets. Du respect pour les poulets, quoi. Hein? Respect. Les poulets, descendants des dinosaures. Deux pattes, des petits yeux méchants. Regardez bien l'œil d'un poulet. C'est... Imaginez un grand poulet de 2 mètres. On rit moins, déjà. Bon. Et vous voyez un tyrannosaure, bon, ça a des dents en plus, mais le poulet, c'est un bec, quoi. Prenez un coup de bec de poulet, comme ça, là, tac. Un gros bec de poulet qui ferait 2 mètres de haut, on rirait pas. Bon, donc respect pour les bestioles. Et voilà, 10 mètres, ça n'existe plus, les ptérosaures. Et ils ont fait 10 mètres d'envergure. La masse que j'ai indiquée ici, 70 kg, comment on la connaît? Parce qu'on n'a plus que des os, hein, regardez ce qu'on a maintenant. Voilà un ptérosaure. Alors, vous voyez, un long bec comme ça, un long cou. Là, la position, on va en discuter dans un instant. Comment on fait, on sait que ce truc-là fait 70 kg? C'est compliqué. Ça, c'est une science qui est extraordinaire, c'est les animaux, l'étude des animaux du passé, et qui essaie, à partir d'un squelette, de reconstituer, de mettre de la chair autour. En faisant comment? Ben, l'anatomie, puisqu'on connaît évidemment le squelette, on l'a sous la main, là, il est complet, et en comparant avec des animaux modernes, qui ressemblent, qui ne sont pas trop éloignés, même s'il n'y a pas de descendants des ptérosaures. Et on se fait une idée, 70 kg, c'est l'ordre, la valeur la plus probable, il y en a qui vont dire peut-être 60 kg, et il y en a qui pensent peut-être 100 kg, donc vous voyez qu'il y a un intervalle. Vous avez donc un être volant de 10 mètres d'envergure qui fait, disons, une petite centaine de kilogrammes. Imaginez de mettre dessus un avis 3 mètres de haut qui doit faire, je ne sais pas combien, 100 kilogrammes. Ce machin-là, ça ne volera pas. Vous rappelez dans le film, les cascades d'enfer, c'est Star Wars sur le Banshee. Quoi. Ça a l'air cool, mais ça ne marchera pas. Quoi. D'accord, ça ne marchera pas du tout. Je ne rentre pas dans les détails de l'aérodynamique et de la sustentation d'un vol d'un être de 10 mètres. Ça ne marche pas. On ne peut pas mettre un truc qui fait la masse de l'être volant sur l'être volant. D'accord, si on prend un condor ou si on prend un albatros, ils font une quinzaine de kilogrammes, 17 kilogrammes, 20 kilogrammes maximum. On ne met pas 20 kilogrammes sur leur dos comme ça. Quoi. Ça ne marchera pas. Ils ne voleront pas bien. Donc les oiseaux, ils sont taillés pour leur masse, avec leurs ailes. Ils sont étudiés pour, si j'ose dire, mais on ne peut pas les alourdir impunément. Bien sûr, il y a des aigles, ils pêchent un poisson, ils pêchent un saumon. Les aigles, comment ça s'appelle, les aigles, ceux qui pêchent, là, qui arrivent et qui voient, paf, ils chopent l'aigle, ils chopent le poisson. Eh bien... ils peuvent porter un poisson, quoi. Ben, tant mieux, parce qu'ils partent avec après pour le manger. Mais ils ne vont pas porter, genre, un mouton. ou un nourrisson. On a vu, il y avait des images, des fakes, comme on dit sur YouTube, on voyait un aigle qui aurait emporté un nourrisson dans son landau. Vous imaginez la trouille, la dame qui sort avec son bébé, qui regarde s'il n'y a pas un aigle qui aurait emporté son... Non, ça ne marchera pas, quoi. C'est trop lourd, un nourrisson, quoi. L'aigle, il va rester scotché au sol, quoi. Bon, le nourrisson, il va voler un peu, mais il ne le prendra pas, de toute façon, je vous rassure. Mais c'est trop lourd. Il n'a pas la dynamique de... Son aérodynamique n'est pas suffisante pour porter des charges importantes. Alors, le voilà comme il est fichu, le ptérosaure. Remarquez qu'il est en position là à quatre pattes. D'accord ? Bizarrement, les oiseaux, nous, quand ils se posent au sol, ils sont à deux pattes. Ils ont quatre membres, mais deux pattes. Ils marchent sur deux pattes. Là, il est sur quatre pattes, à sa position. Comment on sait ça ? Bien, simplement, les gens qui savent bien ça, donc pas moi, mais ils m'ont expliqué ça. Ils regardent ici la configuration des os du bassin. Ils savent, selon la façon dont ça s'embrique l'un dans l'autre, ils savent si c'est deux pattes ou quatre pattes. Nous, en nous regardant, pour un squelette humain, vous savez qu'on est bipède. Uniquement en regardant la façon dont s'articule le tibia avec le bassin. D'accord ? Et si vous êtes un cheval, pour un squelette de cheval, vous savez que c'est un quadrupède avec la façon dont s'articulent les os. Bon, là, c'est plus facile dans le cas du cheval. Donc là, ils ont fait ça. Et ça se met cette forme-là. Là, c'est donc l'épaule, le coude, les doigts. Ça, ce sont les doigts. Et ça, c'est un doigt. Un énorme doigt qui va servir à faire la structure de l'aile, qui est une peau qu'on appelle un patagium. C'est le nom technique pour désigner cette espèce de peau qui sert d'aile, comme par exemple aux chauves-souris. Parce que les ptérosaures, ils ont inventé le vol, si j'ose dire, et ils ont disparu. Les chauves-souris et les mammifères dont les chauves-souris sont des représentants, ont inventé le vol aussi. Et puis les dinosaures, enfin les oiseaux, qui restent là. Et regardez qu'à chaque fois, on a l'épaule, le coude, la main. Là, il y a trois doigts et un quatrième. Il y a le cinquième doigt qui a fusionné avec quatre doigts. Et il y a un cinquième doigt très grand pour tenir la peau. La chauve-souris, c'est exactement comme nous. Elles ont cinq doigts, les chauves-souris. Mais elles ont cinq doigts très déformés qui donnent la structure de l'aile. Ce sont ces cinq doigts. Et le pouce sert à s'accrocher. Et les oiseaux, ils ont le pouce et ils ont tous les autres doigts. Il y a un petit résidu. Tous les autres doigts ont fusionné en une seule structure. Prochainement, vous mangez un poulet. Vous mangez les ailes de poulet. En général, c'est les dames qui mangent les ailes de poulet parce que le sacrifie. Il faut bien manger l'aile. Alors, bon, personne n'aime l'aile. Bon, alors on mange l'aile. Vous regarderez bien. Vous en profiterez pour faire de la. Vous regarderez bien, ben, y a ce petit machin-là, qui est le pouce, le résidu du pouce, très, très tout petit, et puis les quatre doigts qui ont fusionné pour faire cette structure qui est ici. Regardez la structure, un bec, il est posé donc d'une certaine manière sur les poignets ou quelque chose sur les mains. Regardez comme c'est dans le film. Regardez comme c'est dans le film. Il est posé avec les ailes repliées, là comme ça. On peut imaginer qu'il y a une grande peau ici qu'on ne voit pas. Il est posé avec les ailes repliées sur quatre membres. Il n'a pas une tête de ptérosaure, il n'a pas une tête de ptérosaure, il a une tête de dragon, c'est plus joli. Et il a les ailes repliées exactement comme les ptérosaures. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler une chimère. C'est-à-dire qu'ils ont pris un animal réel qui a disparu, le ptérosaure, et ils ont pris ce morceau-là pour faire sa structure générale. Et ils ont rajouté des bouts d'autres animaux pour faire l'animal complet. Et faire des bouts, faire un animal avec plusieurs bouts s'appelle une chimère. C'est la chimère de l'Antiquité qui était avec un avant de, je ne sais plus quoi, un arrière de lion, non, un arrière de. De quoi ? De chèvre, un avant de lion, enfin je sais pas quoi, plein de morceaux d'animaux mélangés. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme animal là-dedans que vous pouvez reconnaître, à part le dragon ? Il y en a deux, enfin deux. Il y en a un, c'est subtil, et l'autre, c'est un peu moins subtil, mais il y en a deux qu'on peut citer. Des éléments qui rappelleraient les animaux terrestres. Là, c'est une enquête biologique, d'une certaine façon. Alors, si on regarde les dents, le truc le plus dur, si on regarde les dents, elles sont toutes identiques, les dents. Est-ce que vous avez des dents toutes identiques, vous ? Non, nous, on n'a pas des dents toutes identiques. On a des dents devant pour trancher, des petites dents ici pour fercer, puis des dents à l'arrière pour mâchouiller. Nous, on a des dents spécialisées. Si vous regardez les crocodiles, par exemple, ils ont des dents comment, les crocodiles ? Ils ont toutes les mêmes dents, que des petites dents coniques, parce qu'ils ne mâchent pas, ils ne percent pas, ils attrapent la bestiole, ils la noient, puis après, pff, ils avalent les bouts, on va discuter comment. Les dauphins, pareil. Les dauphins, ils ont toutes les mêmes dents. Des petites dents pointues, coniques, toutes les mêmes. Ils n'ont pas de dents spécialisées pour trancher, pour percer ou pour mâchouiller. Un autre chose qui rappelle les dauphins, regardez ça et ça, de l'autre côté, ça et ça. Quand on regarde dans le film, ça s'ouvre et ça se ferme. Ce sont des évents. D'accord ? La respiration ne se fait pas par les narines. Il n'y a pas de narines. Ça respire par ici. D'accord ? Donc des évents de dauphins. Alors qu'est-ce qu'on peut en déduire du coup sur cet animal si on se fonde sur ce que l'on sait des dauphins et ce que l'on sait des animaux qui ont des dents indifférenciées, qui ont toutes les mêmes dents. Les animaux qui ont toutes les dents indifférenciées, ils ne mâchent pas, ils attrapent leur proie, puis ils l'écrabouillent avec des mâchoires en général puissantes, ils écrabouillent tout ça, puis ils avalent les morceaux, ils les avalent tout rond. Ils avalent les bouts d'un coup, sans mâcher, ils ne peuvent pas mâcher, ils n'ont pas de dents pour mâcher. Donc ils avalent les morceaux par gros morceaux, ou plus petits morceaux, selon ce qu'ils ont réussi à dégommer. Pourquoi les dauphins, ou comment les dauphins font pour manger ? Ben exactement ça. Est-ce que vous avez déjà donné des poissons à un dauphin ? Évidemment, jamais. Moi non plus d'ailleurs. Mais comment on fait quand on regarde flipper de dauphin, quand on regarde je sais pas quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? On donne le poisson au dauphin, il fait quoi le dauphin ? Il prend le poisson et après, il l'avale d'un coup. Il l'avale tout rond. Il ne mâche pas le poisson. Il l'avale tout rond. Est-ce que vous, vous mangez les poissons comme ça ? Vous pouvez essayer. Je vais boire un coup. Vous pouvez essayer, c'est pas... Bon, vous pouvez d'abord enlever les écailles du poisson, d'accord. pour lever la tête du poisson, la queue du poisson. Bon. Mais pourquoi on n'avale pas tout rond, nous? Pourquoi on mâchouille comme des malades? D'abord, c'est bon, ça donne un peu le goût dans la bouche, c'est sympa. Mais bon, pour avaler tout rond aussi. Pourquoi on n'avale pas tout rond? Parce que... Oui, alors le système digestif n'est pas assez puissant. Alors ça, c'est un premier point. Notre système digestif a besoin que les aliments soient déjà mâchouillés, donc déchiquetés, et mélangés avec la salive qui va préparer la digestion. L'air de rien, la salive prépare la digestion. Deuxièmement, il y a un tuyau qui va dans l'estomac, qui s'appelle l'œsophage. Il y a un tuyau qui va dans les poumons, qui s'appelle la trachée artère. Il vaut mieux que ça passe dans le bon tuyau, parce que les deux tuyaux, ils sont côte à côte, là. D'accord ? Ils sont quelque part dans l'arrière-gorge, côte à côte, les tuyaux. Et donc, il y a un petit système, là, un petit clapet, qui fait le passage. Donc, quand on dit « parle pas en mangeant » aux enfants, on vous dit ça, de « parlez pas la bouche ouverte et parlez pas en mangeant ». Vous avez déjà dit ça, je pense. Hein ? Je suis sûr qu'on t'a déjà dit ça. Tu dis, Alors, on t'a dit ça parce que si tu parles en mangeant, ça pourrait faire vouloir passer de l'air dans, dans tes cordes vocales quand tu parles blablabla. Ça fait vibrer les cordes vocales avec l'air qui vient des poumons. Et du coup, ça ouvre le clapet dans le mauvais sens, enfin dans le sens où c'est l'air qui passe du côté des poumons. Et si en même temps t'avales, la nourriture, elle peut aller dans le mauvais tuyau, celui où tu respires, et pas celui où tu vas aller dans ton estomac. Et ça va dans le mauvais tuyau, t'as déjà dû voir ça, on tousse, ça fait très très mal, et on a une fausse route, ce qu'on appelle une fausse route. Et si ça reste coincé dans la fausse route, c'est très ennuyeux. D'accord ? Il faut appeler les pompiers. On peut faire la méthode de Heimlich, enfin, vous connaissez ça, vous tapez dans le dos, ce qui n'est pas très efficace, mais il faut faire quelque chose, quoi, c'est dangereux. Donc nous, on a deux tuyaux qui communiquent et il faut faire attention quand on avale. C'est pour ça que la salive sert aussi à lubrifier. L'air de rien, elle sert à lubrifier, ça coule bien. Ça glisse bien comme ça. Alors les dauphins, c'est différent. Parce que les dauphins, comment ils respirent, les dauphins? Ils ont les vents sur la tête. Et ils ont la bouche pour avaler. Et c'est deux tuyaux qui ne communiquent pas. C'est deux tuyaux complètement indépendants. Du coup, ils peuvent avaler tout rond, ça risque pas de passer par le tuyau de l'air. Et ils peuvent respirer par le tuyau de l'air sans que... La nourriture risque d'y tomber, puisqu'il est au-dessus de la tête et pas au niveau de la bouche, au niveau de la gueule du dauphin. D'accord ? Donc les dauphins peuvent avaler tout rond parce que les deux tuyaux sont indépendants. Donc nous, c'est à côté, il faut faire attention. Quand on voit ça, qu'est-ce qu'on déduit sur la façon dont on se nourrit, dont va prendre sa nourriture le banshee ? Les deux tuyaux d'air sont là, donc il peut avaler ici, il respire par ici, il ne respire jamais par là, alors que moi, je peux respirer par la bouche, je peux même parler en bouchant le nez, j'ai un air un peu bête, mais c'est possible. D'accord ? Je peux aussi avaler par le nez, ce qui est moins pratique. Les bébés font ça très bien, mais rapidement on leur apprend que la meilleure façon c'est là. On utilise ça aussi quand on fait de l'intubation au milieu hospitalier. Des fois, les tuyaux pour nourrir les personnes dans le coma, par exemple, ça passe par le nez. D'accord ? Donc on peut se nourrir par le nez. Bon, c'est pas recommandé typiquement, c'est pas ce qu'on fait, mais on peut le faire. Ben, lui, il peut pas le faire. Et lui, il n'a pas intérêt d'avoir un rhume ou quelque chose qui lui bouche les voies aériennes. Parce que nous, on a deux entrées aériennes. La bouche. Et le nez. S'il y en a un qui est bouché, genre je suis malade, je peux quand même respirer par la bouche. D'accord ? Et si j'ai un problème de bouche, les gens qui ont un problème, par exemple, d'accident de voiture avec la mâchoire fracassée, comment ils font pour manger ? Ben, c'est des tuyaux dans le nez ou dans la bouche qui passent. On arrive à se débrouiller à cause de ce système-là. Ben, les dauphins, c'est plus compliqué. S'ils ont la mâchoire fracassée, c'est foutu. Et s'ils ont le nez bouché, c'est foutu aussi. Vous mettez un bouchon sur un dauphin, il est mort. Enfin, il est mort, il est asphyxié. D'accord ? Donc quand les gars, là, les navis, ils veulent attraper un banshee, vous vous rappelez, c'est une espèce de lasso pour les dents. Évidemment, je comprends, on ne veut pas se faire manger. Mais pour vraiment l'attraper bien, ils peuvent, en même temps qu'ils mettent un truc autour de la gueule, ils mettent leur pied là-dedans pour boucher. Ça a l'air gros, alors ils mettent carrément le pied là-dedans, et ça bouche les naseaux, quoi. Et le banshee, il aura du mal à respirer, je pense que ça va le calmer. Bon, il faut y arriver, il faut quand même s'approcher du banshee, c'est pas facile. Donc cet être-là, quand il attrape sa nourriture, il va la briser en morceaux, il va l'avaler tout rond. Il la brise en morceaux et il l'avale tout rond. Il peut l'avaler tout rond et il la brise en morceaux parce qu'il n'a rien pour mâcher. Donc par exemple, il prend cette jeune fille ici qui est toute petite. Il arrive, il est gros. Crac, il la prend d'un coup. Blouk, il l'avale tout rond. C'est réglé. Il prend un monsieur qui est plus fort que cette jeune fille. Ce monsieur, par exemple. Où là, il sent bien qu'il n'a pas réussi à l'avaler d'un coup. Mais non, je ne suis pas gros comme Obélix. Où est le gros? Je ne moque pas de vous, monsieur. C'est vraiment... Merci de votre participation. Bienveillante. Eh bien, qu'est-ce qu'il va vous faire? Il va vous choper comme ça. Vous n'allez pas pouvoir partir parce qu'il vous a accroché avec ses dents. Il va vous casser en bout en vous secouant, en vous tapant par terre. Il va se démerder pour vous casser en bout. Et après, donc là, vous n'êtes plus en état de discuter. Et après, il vous avale en morceaux successifs, tout rond. D'accord ? Voilà comment il va manger. Donc, vous voyez qu'encore une fois, en faisant de la zoologie comparée sur des êtres, évidemment, qui sont des êtres extraterrestres, s'ils existaient vraiment, mais qui n'existent pas, qui sont des chimères, on peut se faire une idée de ce qui se passe. Donc si un jour on trouvait un être extraterrestre qu'il soit pas un microbe, même un microbe d'ailleurs, ça commencera au niveau du microbe, mais même si on trouvait un être extraterrestre plus développé, on pourrait commencer à se faire une idée de comment ça fonctionne par comparaison avec ce que nous connaissons. Ce qui n'exclut pas qu'on pourrait se tromper, et peut-être de beaucoup, parce qu'on utiliserait le référentiel terrestre, on parlait tout à l'heure de référentiel, et pas le référentiel réel de la vie et du contexte dans lequel cet être évolue en réalité, et donc qui n'est pas la Terre. D'accord ? Mais quand même, on ferait tout de suite ça, une comparaison entre ce que l'on voit et ce que l'on sait déjà sur Terre. Alors voilà, je montre quelques images maintenant pour faire joli. Là, ce sont des, vous vous rappelez ces plantes, qui sont des plantes de forêt. On tape dessus et bloup, elles se rembobinent toutes seules. Vous vous rappelez ça ? C'est très joli, c'est très réussi ça dans le film. Alors encore une fois, il ne s'est pas cassé la tête à regarder. Hop, hop. Je refais, hop, hop. C'est la même chose. Ils ont changé un peu la couleur, sauf que ça, ça existe vraiment. Ça s'appelle Spirobranchus giganteus. Ce n'est pas des plantes qui poussent dans les forêts, c'est des vers qui vivent dans la mer. Des vers qui vivent dans la mer. Et quand on les touche, effectivement, ils se rembobinent, ils se rentrent dans leur protection là, qui est quelque part en dessous. D'accord ? Donc il s'est inspiré encore complètement d'un être réel, mais il l'a transposé dans un monde végétal alors que c'est un être marin. Quelle heure il est là ? Bon, ça va, j'ai encore 10 minutes. On va arriver à l'unobtainium, on va revenir un peu sur la physique. L'unobtainium qui est ce minerai que les humains vont chercher sur Pandora, et qui motive finalement leur voyage interstellaire, parce qu'il faut trouver une vraie motivation, à part la conquête glorieuse et l'écrasement glorieux de la biosphère de pandorienne. Eh bien, l'unobtainium, qui comme son nom l'indique, unobtain en anglais, ça veut dire obtenir ou avoir, unobtain, c'est-à-dire on ne l'a pas, unobtainium, c'est un nom fabriqué pour dire le truc qui n'existe pas, quoi. Enfin, c'est clair dès le nom. Bon, ça n'existe pas, évidemment. Et même, il n'est pas très bien nommé, parce que unobtainium, ça fait un peu comme aluminium, beryllium, sodium ou aluminium. Ça veut dire ce qu'on appelle un élément simple, qu'on trouve dans la, ce qu'on appelle la classification périodique des éléments. Si c'est un minerai, on devrait plutôt l'appeler avec nite comme la kryptonite, par exemple. On devrait plutôt l'appeler unobtainite. Kryptonite, c'était bien nommé, plutôt que kryptonium comme nom. Donc, unobtainium, c'est pas très bien nommé, mais bon, voilà, ça n'existe pas. La machine qu'il y a derrière, elle est assez titanesque. Regardez encore une fois, un humain, le camion, la machine. Tout le monde n'est pas à la même distance, mais la machine, elle a l'air vraiment grosse. Je ne sais pas comment ils l'ont amené. Si c'est par voyage interstellaire, ça a dû coûter bonbon. Parce qu'il y a le gars, là, le méchant capitaliste du film. C'est presque un oxymore. Enfin, pas un oxymore, c'est peut-être une tautologie ou une méchant capitaliste. 20 millions de dollars le kilo. 20 millions de dollars le kilo d'unobtainium. Ça veut dire qu'il faut que ça coûte cher. Pour motiver un voyage interstellaire, le prix du voyage interstellaire, il y en a qui sont amusés à essayer de chiffrer ça. Je ne sais pas ce que ça vaut, mais bon, c'est des tarifs exorbitants. Il vaut mieux que ça soit cher, ce que vous allez chercher. Et puis, si c'est un mélange... Si c'est un minerai spécial, vous l'avez trouvé une fois, vous en prenez un échantillon, vous le ramenez sur Terre et vous le reproduisez sur Terre. Ce n'est qu'un mélange de ces éléments simples que l'on trouve, qui sont dans cette fameuse classification périodique des éléments qui va d'hydrogène à l'uranium, les 92 éléments naturels qu'on trouve dans l'environnement naturel de la Terre et dans tout l'univers. Donc, je ne sais pas pourquoi on fait tous ces allers-retours pour aller chercher de l'unobtainium. En tout cas, ça vaut 20 millions de dollars le kilo. Cette machine-là à transporter, elle a dû valoir cher. Regardez. Encore une fois, ils ne sont pas cassés la tête. Hein. Ils ont repris une machine qui existe déjà, ça s'appelle un excavateur à roues. Ce machin-là, ça tourne, ça creuse le sol dans les mines de charbon à ciel ouvert. Ça, c'est une qui est prise au Pays de Galles. Ça fait 200 mètres de long, ça fait 100 mètres de haut, ça ne roule pas vite, mais quand ça passe sur la route, ça a la priorité. Enfin, ça, vous ne discutez pas. Hein. Si vous voulez passer, c'est votre problème. Hein. Les gars, là, ils attendent, hein, parce que là, ça passe. Ça ne va pas très vite, hein, évidemment. Mais quand ça commence à creuser, ça va pas vite, mais quand ça commence à creuser avec sa roue là, qui tourne lentement, ça creuse sur 7 ou 8 mètres d'épaisseur. Et ce que j'avais appris là-dessus, c'est que ça creuse la surface d'un terrain de football en une journée de travail, quoi. Donc il faut avoir des camions derrière. Vous voyez, c'est pas pour creuser une petite tranchée pour mettre, je sais pas moi, un passage dans votre jardin. Vous voyez, c'est pour les mines à ciel ouvert, quoi. C'est vraiment quand on a des tonnes et des tonnes et des tonnes de choses à creuser. Donc, vous voyez, il ne s'est pas cassé la tête, encore Cameron, ses équipes, ils ont pris une machine qui existe déjà, ils l'ont mise en perspective, ils ont créé des images, ils ont mis ça en scène de manière spectaculaire, parce que peut-être personne n'avait jamais vu cette machine-là, mais encore une fois, elle existe réellement. Alors, le l'unobtainium, en voilà un exemplaire. Voilà ce que c'est ce bouquet-là, qui tient tout seul, alors semble-t-il au-dessus d'un support, enfin... C'est un peu curieux de dire un support, parce qu'il n'est pas en contact, le l'unobtainium, le morceau de minerai n'est pas en contact avec le support, comme la bouteille est en contact avec la table, il tient au-dessus du support, mais le bout là, il ne tiendrait pas au-dessus de la table. Il tient vraiment au-dessus de ce petit support, et c'est ce qu'on appelle en physique de la lévitation. C'est possible à faire des choses qui tiennent au-dessus d'une autre sans contact apparent. C'est absolument possible de faire ça. Mais c'est bon, vous allez voir, c'est pas facile. Voilà, regardez, cette chose-là, elle est au-dessus de cette chose-là, sans contact apparent. Alors, je vais vous montrer comment ça marche. Ça s'appelle de la lévitation supraconductrice. Alors, qu'est-ce que c'est un supraconducteur d'abord ? Le supraconducteur, c'est ça. Cette petite pastille qui est ici, qu'on voit dans une espèce de brouillard, qui est en fait un brouillard d'eau, qui est dû au fait que dans la petite coupelle qui est ici, il y a du givre là, il y a de l'azote liquide. L'azote liquide, l'azote est un gaz. Là, il y a de l'azote dans cette pièce. Il y a à peu près les 70% du gaz de cette pièce, c'est de l'azote. Nous, on respire l'oxygène qui est dans cette pièce. Mais l'azote ne nous sert à rien. Mais il y en a même beaucoup. Liquide, ça veut dire qu'il est à 77 Kelvin, c'est-à-dire moins 196 degrés Celsius. Il y a donc un liquide qui, à température ambiante, à température habituelle, est un gaz, à moins 196 degrés, qui est là-dedans et qui refroidit cette chose-là. Cette chose-là, c'est donc un supraconducteur, c'est-à-dire un matériau qui, quand sa température est assez basse, laisse passer le courant électrique sans aucune résistance électrique. Contrairement aux matériaux habituels, les câbles-là, ce câble-là, tous les câbles électriques, ce truc-là, le courant circule à l'intérieur, le courant électrique circule à l'intérieur, mais le câble, le matériau, le cuivre, typiquement, lui oppose une résistance, ce qui fait que le câble est légèrement plus chaud quand le courant électrique passe, par exemple. Cette résistance va dissiper une partie de l'énergie électrique. Dans un supraconducteur, il n'y a pas cette dissipation, et c'est une propriété qui a été découverte il y a un peu plus d'un siècle, en 1911, par un physicien hollandais qui s'appelle Kamerlingh-Onnes, qui a découvert ça, qui travaille sur les basses températures, et qui a découvert la supraconductivité à l'époque du mercure. Maintenant, on a tout un tas de matériaux supraconducteurs. Là, on a celui-ci. Alors, regardez la vraie manip. Comment ça se passe ? Est-ce que ça déclenche tout seul ? Non, il faut que je clique. Ah non, ça va déclencher tout seul. Alors, ce qui lévite au-dessus du supraconducteur, c'est un aimant. Alors, voici l'aimant. Voici le supraconducteur d'abord, le supraconducteur. Et voici l'aimant. Le petit machin brillant, c'est l'aimant. Si je pose dessus, ça ne colle pas. Le supraconducteur n'est pas sensible à l'aimant en température ambiante. Le supraconducteur, l'aimant. Maintenant, mon collègue ici verse, un copain, Jean-Julien Bobrov, verse de l'azote liquide. Ça va refroidir le supraconducteur qui ne l'est pas au début, mais qui va le devenir, sa température diminuant jusqu'à 77 Kelvin. Et là, l'aimant se soulève spontanément. On peut passer l'objet indispensable, le ticket de métro parisien, sous le truc pour montrer, comme dans la magie, qu'il n'y a bien rien en dessous. D'accord ? Il n'y a rien en dessous. Ça tient tout seul. D'accord ? Ça tient tout seul. Alors, tout seul. Visuellement, tout seul. En pratique, l'aimant va induire dans le supraconducteur des courants électriques qui vont créer un champ magnétique qui, en retour, va faire léviter l'aimant. Il y a quelque chose qui tient l'aimant. C'est une force d'origine magnétique, c'est ce qu'on appelle l'effet Messner. Je ne rentre pas dans les détails, mais on peut faire ça. Donc, qu'est-ce que vous déduisez de l'unobtainium ? C'est probablement un supraconducteur, mais qui est très spécial, parce que rappelez-vous, est-ce que vous avez vu l'azote liquide dans le cas de l'unobtainium ? Il n'y a pas d'azote liquide, il n'y a pas de refroidissement. Quand on reprend l'image de début, là, celle-là, ça, c'est le supraconducteur, ça, c'est un bloc d'aimant caché dans le socle, et le supraconducteur en obtainium, il est à température ambiante. Ça, c'est le Graal de la physique des matériaux. On aimerait savoir faire des supraconducteurs à température ambiante. On ne sait pas faire ça, pour l'instant. Les plus chauds qu'on sait faire, qu'on appelle à haute température, ils sont à 115 Kelvin. Ça veut dire moins 160 degrés Celsius. Ça, c'est la haute température de la superconduction. On aimerait faire déjà des températures qui soient déjà plus basses, mettons moins 30 ou moins 40 degrés Celsius, ce serait déjà génial. Et on aimerait que des supraconducteurs qui fonctionnent là, à 20 degrés. Ça serait ultra génial. On pourrait remplacer tous les systèmes électriques, tous les câbles, par ces supraconducteurs à température ambiante et limiter considérablement les pertes de chaleur, les pertes d'énergie dans le transport du courant électrique qui sont transportés dans les lignes, dans les grandes lignes à haute tension, mais d'ailleurs dans n'importe quel, les ordinateurs, les écrans, etc. On ne sait pas encore faire ça, c'est une recherche en cours qui aboutira peut-être un jour. Je vous montre maintenant, pour clore, quelle heure il est là ? Ah, 5 minutes. Hein ? Voilà, il suffit de trouver l'unobtainium, exactement. Il suffit d'aller le chercher sur Pandora. Alors, vous rappelez ces montagnes aussi qui flottent dans les airs. Est-ce qu'on peut comprendre ces montagnes maintenant ? Pourquoi elles flottent dans les airs ? À la lueur de ce qu'on a appris en physique et à la lueur de ce qu'on a vu du film. D'accord ? Il faut essayer de faire un mélange de tout ça. Même si l'on sait bien que le film, évidemment, c'est un film. Qu'est-ce qu'on peut dire à ton avis ? Exactement. On va se dire que les montagnes qui sont là, elles sont essentiellement en unobtainium. Elles sont riches en unobtainium, et que dans le champ magnétique de Pandora, elle flotte comme le petit échantillon de unobtainium flottait dans le champ magnétique des aimants cachés dans le support. Ou comme notre aimant, mais là c'était la situation inverse, notre aimant était en lévitation au-dessus du supraconducteur à basse température qu'on a utilisé, nous, sur Terre. Alors, en physique, ça marche bien. C'est cohérent. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est très important en physique de mettre des nombres. On ne peut pas rester comme ça, dire bah, « c'est la bonne idée, salut, je m'en vais ». On dit « ouais, il est vachement malin, le gars ». Ou la fille. Il y a des physiciennes aussi, bien sûr. Pas assez, il en faudrait plus. Je dis ça, hein, mais je n'ai pas de la faute des dames. Hein. Il faut, voilà, faut aussi que les mecs se poussent un peu. On va mettre des nombres. On peut essayer de calculer quel champ magnétique doit avoir Pandora pour que ce volume de neptunium flotte au-dessus du sol. Alors, le volume, c'est beaucoup. Parce que regardez ici, là, il y a un hélicoptère. Là. Ça fait 10 mètres. Donc, le volume, là, c'est quoi? Peut-être 80 mètres de côté. 100 mètres de côté. Ce machin-là, il doit faire, allez, à la louche, de l'ordre de 1 million de mètres cubes. 100 mètres par 100 mètres par 100 mètres. 1 million de mètres cubes. C'est du caillou. Le caillou, ça pèse. Ça pèse 3 à 4 tonnes par mètre cube. 1 million de mètres cubes, ce machin-là, ça pèse, allez, on va dire, en étant généreux, 3 millions de tonnes. Là, ce n'est pas un petit aimant de 1 gramme ou 2 qu'il faut faire léviter. C'est 3 millions de tonnes. Donc, il faut trouver le champ magnétique nécessaire pour faire léviter un supraconducteur de 3 millions de tonnes. Facile. Alors, on demande à mon copain Bobrov, le gars là dont on voyait les mains qui a fait la manip, qui lui est un spécialiste de la supraconductivité, il fait le calcul dans son coin, et il me répond 10 000 Tesla. Alors, 10 000, il ne faut pas se dire 10 000, ah, c'est grand parce que c'est 10 000. Il y a l'unité en physique qui est importante. Donc, ce n'est pas parce que le nombre est grand que ça veut dire grand. Par exemple, moi, je fais à peu près 1,75 milliard de nanomètres. Il est grand, le gars. 1,75 milliard, c'est énorme. Oui, mais l'unité, le nanomètre, c'est le milliardième de mètre. Donc, c'est normal que je fasse des milliards de milliardième de mètre. Je fais 1 mètre de hauteur, quoi, 1,75 mètre de hauteur. Donc, ce n'est pas le nombre grand qui est important, c'est aussi l'unité. Donc 10 000 Tesla, 10 000 c'est grand, mais le Tesla c'est une unité de champ magnétique qui est très grande. Le champ magnétique de la Terre, c'est 50 millionième de Tesla. Pour la Terre, 50 millionième de Tesla. Et là on parle d'une planète, d'un objet qui n'est pas une planète, qui est un satellite, qui est plus petit que la Terre et qui devrait avoir un champ qui est un milliard de fois plus grand. Bon, curieux. Curieux, très curieux. Et 10 000 Tesla, c'est même un champ qui est si intense que si vous mettez des atomes, de la matière dans un champ magnétique si intense, la matière doit être, comment dire, déchiquetée, écartelée par ce champ magnétique et ne doit plus subsister, ne doit plus garder sa cohérence. Donc on voit qu'en mettant des nombres dans ce que l'on voit, ça ne marche pas. Bon, c'est normal, c'est Pandora, c'est un film, c'est Avatar, il ne cherche pas Cameron à faire un documentaire. Mais d'où l'importance de mettre des nombres. On peut avoir une idée qui a l'air cohérente intellectuellement, mais si on met des nombres, on voit... Ça a l'air délirant, ça ne marche pas. Il n'y a pas assez d'énergie, il n'y a pas assez de matière, il n'y a pas assez de je ne sais pas quoi, et ça ne marche pas. D'où l'importance, toujours en physique, ce n'est pas juste les idées, c'est aussi quelque chose qui doit faire du quantitatif. Il me reste 25 secondes. Non, ben même pas. Bon, 10 000 Tesla, je l'avais dit. Voilà le vaisseau. Voilà, il est beau. Ben, je vais m'arrêter là, parce que sinon, je vais dépasser pour la suite. On pourrait dire des tas de choses sur ce vaisseau. Là, vous êtes vert. Merde, le vaisseau, c'est ce qu'on pourrait dire. Et il y a une suite tout de suite. Je vais quand même dire en deux secondes, c'est quand même, allez, vous, sinon vous allez partir frustré. Mais j'ai dit, les utopiales, il faut que ce soit frustrant. Si ce n'est pas frustrant, c'est que ce n'était pas bien. Il faut qu'on n'ait pas tout vu, il faut qu'on n'ait pas tout fait, qu'on se dise, je reviendrai l'année prochaine. Pour moi, c'est mon but, hein, que ça tourne la machine. Alors, les radiateurs. Les radiateurs, pourquoi? Parce qu'ici, on a le bloc moteur, si j'ose dire. Le bloc moteur, c'est quelque chose qui va produire de l'énergie et qui va éjecter de la matière à grande vitesse dans cette direction-ci et dans cette direction-là, de sorte que le vaisseau accélère par là. Comme les fusées, d'une certaine façon. Mais le moteur, il va chauffer. Et pour évacuer cette chaleur dans le vide, on ne peut pas utiliser un refroidissement à air, un refroidissement à eau. Il n'y a ni air ni eau dans le vide de l'espace. Donc il faut ce qu'on appelle du rayonnement, des radiateurs. Quelque chose qui va rayonner cette énergie vers l'extérieur. C'est pour ça que c'est un peu rouge. Si vous regardez, ça c'est carrément... Vous avez certains d'entre vous dans votre salle de bain, un petit machin, on tire sur la ficelle, clic, et puis ça allume des résistances chauffantes qui sont rouge-orangées. Et bien c'est ça, c'est exactement ça. Sauf que là, elle vous chauffe. Elle rayonne, on les chauffe pour qu'elle vous chauffe, pour qu'elle rayonne de l'énergie qui vous chauffera. Là, c'est l'inverse, on veut évacuer l'énergie par ce rayonnement. Là, c'est les réservoirs, probablement, ces sphères, ça contient le carburant. Alors le carburant, on peut en discuter, c'est pareil, c'est 20 minutes de discussion, je passe. Le carburant, là, il y a le câble, cette structure-là, très jolie, qui a la forme de la tour Eiffel. Je fais cette remarque, c'est pas innocent, il y a une raison. Je passe, sinon on n'est pas sorti. Mais il y a une forme, et c'est pas n'importe quelle forme. Et c'est une très bonne forme, c'est un très bon choix. Le câble. Ça, c'est les soutes. On voit ici les navettes qui prennent des choses et qui montent et qui descendent vers le sol. Bon, très bien, ça, c'est les soutes. Ça, c'est les modules de vie. C'est là où sont les passagers, les voyageurs. Et cette chose, cette structure ici, elle tourne sur elle-même. On la voit tourner sur elle-même. Pourquoi elle tourne sur elle-même ? Ça fait une force centrifuge à l'extérieur, comme dans un manège. Cette force centrifuge, pour quelqu'un qui est à l'intérieur, c'est une gravité artificielle. Ce qui fait que les passagers, pendant le voyage, peuvent être soumis à une gravité artificielle, de sorte qu'ils ne passent pas les à peu près un peu moins de 6 ans de voyage en impesanteur, et à l'arrivée, leurs muscles ont fondu. Et ils peuvent même plus se lever pour descendre sur la planète. Il leur faut des mois et des mois de rééducation. Quand quelqu'un va en orbite pendant un mois ou deux, en impesanteur, il redescend sur Terre, il lui faut à peu près un mois de rééducation juste pour marcher. Parce que ses muscles ont fondu du fait de l'impesanteur qui ont finalement déshabitué, entre guillemets, ses muscles à travailler dans une pesanteur qui est celle que nous connaissons sur Terre et qui nous paraît naturelle et pas gênante habituellement. Donc ce truc-là, ça tourne pour créer une pesanteur artificielle aux extrémités. Du coup, un dingue comme moi, il mesure en combien de temps ça tourne. Pourquoi ? Parce qu'en combien de temps ça tourne, ça va me donner une idée de quoi ? Eh bien, il y a deux, trois choses qui sont liées. Le rayon de l'axe, le rayon de rotation, la vitesse de rotation et l'accélération à l'extérieur. L'accélération qui est la pesanteur artificielle, une gravité terrestre. Ou la gravité, mieux, la gravité de Pandora. Trois quarts de gravité terrestre, avec mon raisonnement de tout à l'heure que je ne vous ai pas raconté. Donc si l'accélération ici, c'est trois quarts de gravité terrestre, que le tour, il se fait, comme j'ai mesuré moi, en 36 secondes, vous en déduisez quoi ? La longueur du bras. Et quand vous avez la longueur du bras, vous avez une échelle de longueur sur cette image. Et donc, ça allait là une fois, deux fois, trois fois, nanana, et vous en déduisez en gros la longueur du vaisseau, à peu près 2500 mètres. D'accord ? C'est écrit sur l'image. Vous voyez ? Il faut que ça bouge. D'accord ? Il faut que ça tourne. Mais vous voyez ce qui est ? La longueur du vaisseau, elle est écrite sur l'image. Encore enquête. Et ça, c'est quoi ? Dernière fois, avant de couper, c'est quoi ce truc-là ? C'est pas un miroir pour se raser le matin. C'est que le vaisseau, quand il accélère dans ce sens-là, il va vers Alpha du Centaure, il va vers Pandora, tout va très bien. Mais comment il fait pour freiner ? Il doit se retourner et maintenant, les réacteurs vont aller dans le sens du mouvement, vont contrebalancer le mouvement pour freiner le vaisseau. Il n'y a pas de frein dans l'espace. Hein. Pas le frein à main, il n'y a pas de frottement. Donc le vaisseau doit freiner avec en utilisant ses réacteurs contre son mouvement. Ça va le ralentir. Et donc les passagers qui sont là, ils ont besoin d'un bouclier qui les protège de toute la matière qui arrive sur eux à très grande vitesse. Quand ils sont même dans l'espace interstellaire qui est quasi vide, il y a quand même de la matière qui arrive sur eux à très grande vitesse. Bon voilà, je vais m'arrêter là, sinon je vais me faire engueuler. D'ailleurs, je me suis déjà fait engueuler. Donc j'arrête là. Merci de votre attention et bonnes utopiales.